Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des malheurs que tout le monde redoute, la perte d'un enfant en est un, mais il est des bonheurs dont peu de gens veulent, semble nous répondre mon invité de ce matin. Vanessa est une femme, mère de famille, maman. Il y a un peu plus de 8 ans, Vanessa a mis au monde une petite fille atteinte d'un syndrome polymalformatif, une petite fille prénommée Marie-Lys. Une enfant qui est venue bien malgré elle bouleverser la vie de ses parents et de ses frères et sœurs, pour le pire et le meilleur. Marie-Lys, notre enfant soleil, c'est le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, en reprenant tout simplement le titre de votre livre. Vanessa Cordier, vous êtes donc une femme, tout simplement, pour commencer, une épouse, une mère de famille, et donc auteur d'un ouvrage paru récemment, c'était en juin dernier, Marie-Lys, notre enfant soleil, paru aux éditions Le Centurion. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu au micro de Vivante Église. On ne dira pas où vous habitez quand même, mais en tout cas vous êtes du pays, vous êtes d'Occitanie, et donc vous avez courageusement écrit ce livre. Je citais ce matin en teasing de l'émission donc l'introduction faite par Tuc Duhalderville, ou du moins un extrait. Tuc Duhalderville, pour rappel, qui est donc le secrétaire général ou le président d'Alliance Vita, je ne me souviens plus quel est son titre exact, mais en tout cas c'est le grand chef d'Alliance Vita, qui est cette association qui accompagne, on va dire, pour aider les parents à faire face à la vie ou aider à mieux vivre lorsque l'on est confronté à tout type de difficultés autour de la naissance. Difficile de définir un peu l'action d'Alliance Vita. Bref, en tout cas, il dit de ce livre, cet ouvrage est maternel, et de fait, on le découvrira au long de cette émission. C'est une lettre d'amour que vous écrivez à votre petite fille. Alors, pour commencer, donc vous avez publié ce livre donc en juin dernier, et vous me disiez en préparant l'émission que déjà on commence un petit peu à en parler, qu'hier vous étiez sur Europe 1. Racontez-nous un petit peu le bruit de tam-tam que commence à faire ce livre.
C'est vrai que je commence à recevoir quelques lettres très touchantes. Enfin, hier j'étais en larmes de personnes qui, donc, des amis, d'amis, enfin, que je connais pas forcément, qui ont demandé, donc, mes coordonnées, ou une dame aussi, le jour, m'a téléphoné. Et, c'est vrai qu'ils sont bouleversés. Et hier, notamment, j'ai eu une lettre d'un monsieur qui me disait qu'il n'avait pas la foi, mais que celui-là avait apporté, donc, ça l'avait beaucoup ébranlé, et il lui a apporté énormément d'apaisement par rapport à la souffrance et la mort. Donc,
À propos de l'interview sur Europe 1 hier, vous disiez aussi que vous aviez un peu découvert que les personnes qui vous interviewaient étaient concernées aussi par le drame que vous avez vécu, enfin le drame et le bonheur.
Oui, en effet. Donc une personne qui était ouverte, a super bien un petit enfant, et il y a des auditrices aussi qui ont réagi et cherché aussi à en savoir plus.
Alors, cette petite fille s'appelle Marie-Lys. On va essayer de tout simplement suivre le chemin de votre livre et parler donc d'avant la naissance dans la première partie, de la naissance et de la vie de cet enfant donc jusqu'à son décès. C'était donc, elle est née, vous me le rappeliez, donc le 28 juin 2011, et elle est décédée donc le 28 juillet 2012. Et puis à la fin de l'émission, on essaiera de voir un peu toutes les leçons que vous avez tirées, ou les enseignements de ce parcours de vie, même si ça jalonne votre ouvrage. Alors, vous commencez votre livre en parlant, le premier chapitre, je crois que c'est celui-là, le choc de l'annonce. Vous racontez donc que vous étiez une mère de famille avec 3 enfants, on va dire insouciante et heureuse. Et puis, lors de la première échographie, les choses ont commencé à se compliquer. Vous vous souvenez de cette première échographie ?
Ah oui, ça serait que je n'oublierai jamais à un moment... Très fort, très douloureux. On arrivait donc avec notre insouciance presque insolente, de parents comblés de 3 magnifiques enfants. Je me souviens, j'avais été stressée pour la première grossesse et là, plus du tout. Et donc l'échographiste me pose de nombreuses questions sur mes grossesses précédentes et on lui répond même de façon agacée, mais oui, qu'est-ce que vous voulez ? Et bon. Et puis après, donc l'échographie commence. Heureusement, mon mari était venu, alors que pour la première fois, il avait eu un empêchement. Je lui avais dit si, viens quand même. Bon, heureusement, j'avais l'intuition des mamans. Il était là. Et c'est vrai que Donc nous, on est ravis hein, de regarder les petites formes, des contours voilà, de notre enfant qu'on découvre sur l'écran. Et elle est restée un peu longtemps sur le cœur. Mais bon, nous, on n'imaginait rien. Et puis à un moment, elle me dit, il y a un problème sur le cœur. Et là, comme un coup de poignard, c'est vrai, c'était... Puis je me suis rappelée d'une des préparations à l'accouchement à Paris, une jeune femme là, qui avait aussi attendu un enfant d'une cardiopathie, qui avait beaucoup pleuré. Enfin, du coup, je savais voilà, ce que ça
impliquait.
Ce que cela pouvait impliquer.
Alors, vous dites qu'elle vous a aussi dit lors de l'échographie, c'est une petite fille et que ça vous a beaucoup porté parce que c'était déjà en fait une petite fille plus qu'un problème. J'aimerais, puisque, et là c'est un peu la contrainte de cette émission, on ne pourra pas faire état de tous les détails de la vie de Marylis, mais au moins les grandes étapes. Rapidement, vous êtes confrontée avec votre mari en fait au choix de la vie parce qu'on vous explique que ça va être une vie fort compliquée, voire même on vous suggère de mettre fin à la vie de cet enfant. Racontez-nous un peu ce bras de fer que vous avez vécu et que vous racontez et la manière courageuse dont votre mari s'est positionné, entre autres.
C'est vrai qu'on a été, bon, déjà sous le choc, hein, c'était cette mauvaise nouvelle. Après, je reconnais le rôle difficile des médecins hein, qui doivent annoncer ce diagnostic, donc qui forcément prennent la colère des parents en face. Mais ce qui nous a encore plus étonnés, c'est qu'au lieu de nous dire ce qu'on aurait attendu, oh là là, mes pauvres, mais bon, l'équipe médicale va être là. En plus, c'était curable, son opération. On fera tout pour lui donner sa chance, pour vous accompagner. Et c'était pas du tout ça. C'était un discours noir. Ça va être horrible, un vrai cauchemar. Vraiment, ce mot très fort qui a résonné dans mon cœur.
Cauchemar, ils l'ont utilisé, hein, c'est ça? Ils ont utilisé ce mot.
Oui, cardiopédiatre. Et même beaucoup de culpabilisation, vous vous rendez compte si vous la gardez pour votre famille, pour vos enfants, votre couple, ils ont dit, voilà, 50% des couples se séparent après, voilà, avec un enfant comme ça, très lourdement handicapé. On s'est pris ça et c'était très, très violent. Donc, beaucoup de colère à la rencontre au début.
Racontez la manière dont votre mari a un peu pris position aussi et puis a mis fin au débat, on a l'impression, à l'occasion de cette rencontre.
Voilà, il s'est insurgé en disant, mais enfin, comment vous pouvez dire ça, c'est notre enfant. Et c'est vrai que cette personne a dit, on peut avorter pour beaucoup moins, même pour un simple bec de lièvre. Et il a dit, mais enfin, c'est une vie et on ne peut pas la sacrifier. Et on a vraiment dû, on sentait, voilà.
Alors, nous n'avons cependant pas le droit de lui ôter la vie, dit votre mari, et Yann-Marie, le médecin renchérit, tuer n'est pas un péché. Et là, je monte au créneau, là, que c'est vous qui parle, comment pouvez-vous dire cela? Pourquoi le tuer? Je suis révolté contre ce médecin, etc. Alors, on découvre aussi au fil de votre ouvrage, et puis on y reviendra à la fin, que le corps médical s'est aussi montré, extraordinairement accompagnant. Peut-être à partir du moment aussi où vous avez fait le choix de la vie, où cet enfant était né. J'aimerais que vous nous parliez dans ses débuts, avant la naissance de cet enfant, rapidement et tout au long de votre ouvrage, vous ne faites pas mystère de votre foi. Vous êtes tourné vers Dieu et vous l'avez interrogé. Vous lui avez même demandé une parole et il vous a répondu. Parlez-nous de cette parole que vous avez reçue.
Étant croyante, c'est vrai qu'on s'est tourné vers Dieu. Donc très rapidement après cette échographie, avec mon mari, on est allé dans une petite église là dans le centre de Toulouse. Et voilà, les yeux pleins de larmes, une prière de supplication, très simple, main dans la main. Et voilà, Seigneur, on comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on a très peur. On te supplie, on croit que tu existes, que tu agis, pour toi rien n'est impossible. Et cette prière fait qu'elle n'est rien de grave, fait qu'elle ne décède pas, et on reste fort. Et on a prié après le soir, donc demandant un... Moi j'aime beaucoup...
Demander des textes dans la prière,
dans un texte, la parole hein, qui est vivante et qui vraiment à chaque fois me rejoint. Et on a eu un texte
Alors je vais le citer.
Qui me rejoignait totalement et qui faisait vraiment écho à ce qu'on vivait.
Donc c'est dans l'Épître aux Corinthiens, on va pas le citer in extenso, mais je cite un passage. « Mais ce trésor, nous le portons en des phases fragiles, Donc ce trésor, c'est le Christ, hein, pour que ce trésor, nous le portons dans des vases fragiles, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non annihilés, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, sans être trop indiscret, puisque vous en parlez dans ce livre, l'écho qu'a eu cette parole et combien elle vous a soutenu avant la naissance et puis après? Vous êtes vraiment appuyé en fait sur la parole de Dieu?
Ah oui, je me la répétais sans cesse. Je suis terrassée, mais non pas désespérée. Voilà, c'était vraiment, ces mots rejoignaient notre état. Et puis, vous avez dit c'est Jésus, mais moi, ce trésor dans ce vase d'argile, pour moi, c'était Marie-Lys, ce trésor. Et qu'on porte, et malgré notre fragilité, voilà, cette puissance, cette force ne viendra pas de nous, mais du Seigneur. Et après, je me suis dit, Seigneur, agis en moi, c'est lorsque je suis faible que finalement je suis forte, que ta puissance se déploie en moi. Moi, je suis une maman, là, hyper déprimée, anxieuse, et manifeste ta puissance.
L'autre chose, c'est que vous décrivez aussi la chaîne de prière qui s'est mise en route. Derrière, ça vous a extraordinairement surpris, parce que à vous lire, en fait, vous avez envoyé un mail à vos amis, à votre famille, et puis ça a eu un effet de démultiplication jusqu'à atterrir, je sais pas si c'est dans la boîte email ou sur le bureau d'un cardinal à Rome. Racontez-nous cette chaîne de prière.
Ben, c'est vrai que ça s'est propagé, hein, donc... Au début, bon, on est réflexe, évidemment, d'envoyer des nouvelles et puis de demander la prière à nos amis qui l'ont transmis. Et puis, c'est vrai que ça arrivait. Voilà. Après, j'ai eu des mails de gens que je ne connaissais pas aussi qui disaient qu'ils priaient pour nous ou qui demandaient une photo de Marie-Lys pour mieux se l'approprier.
Donc, c'était des centaines de personnes qui priaient pour
vraiment,
vous, c'est ça?
Oui, vraiment. Et après, c'est vrai qu'on a tous, pendant cette épreuve, on s'est senti vraiment porté. Donc, on a vu la puissance de la prière, hein.
L'autre chose que vous dites tout de suite, et d'ailleurs Tuc de Lderville vous en remercie, on y reviendra, dans son introduction, vous dites que vous avez eu l'impression que votre bonheur vous était volé. Je ne retrouve pas forcément tout de suite votre expression, mais vous disiez que vous étiez une famille heureuse, et là je parle toujours avant la naissance, et que tout d'un coup c'est comme si votre bonheur vous était volé. Donc vous avez commencé à réfléchir, on va dire, sur la question du bonheur. Expliquez-nous un peu cette phase où sous votre tête c'est devenu une tempête.
Ben, je me suis dit, voilà, comment déjà elle va être heureuse si elle souffre, si elle est malade, et puis nous, moi, j'avais les paroles, hein, du médecin qui résonnaient en moi, comment les enfants aussi vont pouvoir vivre. Puis c'est vrai que ça a été très difficile aussi, la séparation. À chaque fois, moi, j'étais tiraillée entre mes enfants et Marie-Lys. Lorsque j'étais à l'hôpital, j'étais pas avec mes enfants. Lorsque j'étais avec mes enfants, j'étais pas avec Marie-Lys. Donc ça, c'est très très douloureux pour une maman. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est quoi le bonheur? Et donc au début, je me suis dit, notre vie est foutue. On n'aurait pas dû avoir ce quatrième enfant. On avait tout. Et du coup, je me suis interrogée. Je suis allée voir aussi beaucoup sur Internet. J'ai lu des témoignages. Et des gens, voilà, qui avaient vécu des grandes épreuves ou qui étaient avec des handicapés. Et je me suis dit, il y a peut-être autre chose. Et que le bonheur que je considère n'est peut-être pas celui-là, finalement. Et je voyais bien que, voilà, même dans l'épreuve, certaines personnes rayonnaient. Et donc je me suis mise à réfléchir aussi. J'ai repris des cours de philosophie là, sur le bonheur. Et comprendre que finalement, le bonheur n'était pas dans l'accumulation des biens. On voit bien que c'est infini. Et une fois que le bien est acquis, on en veut un autre. Et où il y a une frustration à la fin et déception, c'est que ça. Et j'ai du coup touché du doigt petit à petit, et puis l'ai vécu après, que le bonheur n'est pas dans l'avoir, mais vraiment dans l'être et dans la relation.
Alors, ce qui est étonnant dans votre livre, c'est que, donc je le disais, vous parlez beaucoup avec votre cœur, on sent que vous nous traduisez un peu l'oscillogramme de toutes vos émotions, et avec vérité, et elles sont intenses, mais aussi, vous en faites pas mystère, vous êtes assez cérébral. On a l'impression quand même que le fait de réfléchir vous donne un peu des clés pour vous préparer à vivre ce qui allait venir devant. Est-ce que ça vous semble juste? Par exemple, cette question du bonheur, vous en parlez dès le début. Donc j'ai l'impression que vous avez une première solution à une épreuve qui va arriver, alors qu'on pourrait imaginer qu'on trouverait ça à la fin de votre livre. Est-ce que votre forme de pensée ou le fait justement de réfléchir ce que vous vivez vous a aidé en fait à traverser tout ça?
Oui, c'est peut-être aussi ce qui m'a aidé à ne pas me laisser submerger, de garder... Donc il y a le cœur, il y a les entrailles hein, qui sont ébranlées, il y a, ce chagrin, cette angoisse. Et en même temps, voilà, on a aussi une raison, un cerveau. Et voilà, et du coup, d'analyser pour prendre du recul aussi et trouver des clés, c'est vrai que ou c'est ma façon de fonctionner, mais besoin de passer par la raison aussi pour... c'est peut-être aussi mettre
de la distance.
De la distance et trouver des réponses et du sens. J'ai trouvé mes réponses, je suis en paix et j'ai trouvé des réponses à mes questions.
On va faire une première pause et je vous cite avant la naissance donc de Marie-Lys. Mon regard sur la vie avait alors changé, mon regard sur le bonheur s'était modifié. J'en découvrais et ressentais d'autant plus le caractère fragile, contingent, mais du coup sacré, précieux et digne de reconnaissance.
Emmanuel Pella.
Marie-Lys, notre enfant soleil, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin et le titre de l'ouvrage donc, de Vanessa Cordier qui est avec nous. Vanessa Cordier, donc, entre autres, mère de famille et donc maman de cette petite fille, Marie-Lys, qui est repartie de là où elle venait, en tout cas pour les croyants, le 28 juillet 2012, livre paru aux éditions Le Centurion. Après donc, avoir évoqué l'avant-naissance, parlons maintenant de la vie de votre petite fille, en tout cas sa vie sur Terre. Vous, donc dans votre chapitre Ta naissance, vous dites que vous parlez donc du 28 juin 2011, jour de sa naissance. Les prémices de l'accouchement se font sentir. Et alors vous avez accouché d'une manière un peu singulière, c'est-à-dire très lente à vous lire, et vous y avez vu quelque chose d'une pédagogie. Racontez-nous.
Oui, j'ai surtout vu la puissance aussi du psychisme sur le corps. C'est vrai que généralement j'accouche très vite et là, j'étais tellement angoissée hein, malgré mon espérance et donc la grâce ne supplie pas la nature et donc du coup le col se dilatait pas et c'était très long. Après j'ai des petits clins d'yeux. C'est vrai que là j'avais beaucoup pris la Vierge Marie. Et l'infirmière s'appelait Marie, donc voilà, j'ai vu que j'étais pas toute seule. Et voilà, donc finalement, bah, ils m'ont donné des médicaments là, qui ont accéléré. Donc après, bon, ça s'est fait. J'ai réussi, voilà, j'ai donné la vie. Et
Donc c'est une naissance comme une autre, en fait, au départ. À le vouloir, en tout cas, hormis le fait que vous faisiez comme de la résistance, une fois que Marie-Lise était arrivée, le bonheur était plein ou pas?
Ah non, ça a été très difficile. Enfin, je m'étais très bien préparée parce que je savais que je n'aurais pas ce peau à peau, ce premier contact si fort, parce qu'ils nous l'ont retiré tout de suite pour justement vérifier qu'elle respirait bien et autres. Yann Marais a quand même eu le temps de la baptiser. Ça, on l'avait vraiment demandé. Donc, on avait ramené une petite fiole avec de l'eau de Lourdes. Et donc là, c'était un moment très, très fort. Avec les équipes qui sont du coup un peu reculées, qui nous ont laissé ce petit moment avec elle. Mais c'est vrai que bon, je ne l'ai pas eu tout de suite. Mais bon, je m'étais préparée, je l'ai offert. Et je savais que c'était pour elle, par amour, pour lui donner toutes ses chances.
Donc vous l'avez dit au début de la première partie de l'émission, vous avez repris la filou, en tout cas vous êtes mis à beaucoup réfléchir donc, dès l'annonce de la future naissance de Marie-Lise. Votre ouvrage est ponctué comme ça, donc, de réflexions philosophiques, alors j'aimerais qu'on revienne sur deux de vos réflexions autour de la naissance de votre petite fille. Vous parlez de l'élan vital, notion développée par Bergson dans son livre « L'évolution créatrice ». Racontez-nous la réflexion qui vous est venue en contemplant la vie de votre petite fille autour de cette notion de l'élan vital.
Oui, déjà, je trouvais ça pendant la grossesse très prodigieux. Je me disais, bon, elle est là, je ne sais pas comment elle est exactement, comment sont ses organes et autres, mais elle continue à grandir, elle continue à se développer dans mon ventre. Et il y a cet élan de vie qui continue à se diffuser, à se propager. Et même après la naissance, en fait, elle respirait très bien. Elle s'est très bien débrouillée, ce qui a permis d'éviter une première intervention éventuelle dont nous avaient parlé les médecins. Et il y a eu aussi un petit phénomène qui m'a beaucoup émerveillée. C'est que normalement, au bout de quelques heures après la naissance, il y a le canal artériel qui se ferme. Ça permet à l'enfant de bien ouvrir ses poumons, de respirer. Et elle, si ça s'était fermé, elle aurait été très très gênée avec son ventricule droit fermé et autres. Donc il aurait fallu intervenir sur ce canal. Et là, prodige de la nature, son canal artériel ne s'est jamais refermé. Donc ça a été suivi plusieurs semaines.
Les médecins eux-mêmes étaient surpris, non? Vous vous en souvenez pas, non?
Ils n'ont pas dit. Ils ont dit si, peut-être que ça pouvait arriver, de façon très rare. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible, comment ça se fait que ça ne se ferme pas? Donc là, j'ai vu les prouesses de la nature qui trouvent en elles-mêmes des solutions pour s'adapter et pour prolonger cette vie, pour lui permettre de s'éclore au maximum. Donc c'est pour ça, quand j'ai lu Bergson dans son livre « L'évolution créatrice », ce mot, cet élan vital, qui se donnait une fois pour toutes, une fois que la vie est donnée, elle est donnée, elle ne s'arrête plus. Qui traverse la matière à la manière d'un élan créateur. Voilà, ça m'a vraiment rejointe et j'ai vu la puissance de cette vie qui se bat.
Alors l'autre notion, c'est la finalité interne. Vous dites que donc, c'est un certain Jacques Monod, dans un ouvrage « Le hasard et la nécessité » qui développe. C'est la fameuse téléonomie, cette propriété qui fait que les êtres vivants sont doués d'un projet. Expliquez-nous cette notion et pourquoi elle vous a parlé.
En fait, j'ai vu que malgré le handicap ou les difficultés, chaque création, enfin chaque être humain a en soi cette vie qui après qu'Anguilhem en parle aussi très bien, qui dit que le corps fait tout pour maintenir les conditions optimales. Du coup, il y a une force de vie qui protège, qui... donc c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé de voir ce projet aussi et que chaque personne du coup a un projet, sa vie a un sens et une destinée, une mission.
C'est-à-dire, vous aviez l'impression en voyant votre petite fille qu'elle vivait sa vie et entre guillemets elle était finalisée un peu en dehors de vous, c'est ça qui vous a surpris?
Bah qu'en effet, même si c'est, il y a beaucoup de choses qui buguaient, qui n'étaient pas comme il aurait fallu, à cause de ce fameux gène qui avait muté, en fait, ça permettait quand même à la vie de continuer, d'éclore, de se poursuivre, même voilà, si elle n'avait pas tous les éléments au niveau de beaucoup de sens étaient atteints, la vue, l'audition, etc. La vie était là, continuait et en vue d'un projet, suivait une logique qui m'échappait, mais qui existait.
Elle suivait son chemin d'une certaine manière. Alors après, donc, s'en est suivie une médicalisation importante. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on sent que c'était lourd. Vous décrivez tous les allers-retours que vous faisiez donc entre l'hôpital pour essayer d'être présent à votre petite fille, présent à votre famille. Bref, on imagine aussi la grande fatigue et toutes les tensions personnelles et familiales que ça a pu engendrer. Racontez-nous, en fait, dites-nous ce qu'elle avait, puisqu'on finit par vous dire quel est son syndrome, qui a un nom. Je vais vous laisser le décrire, c'est un acronyme anglo-saxon. Si vous pouvez nous expliquer, pour les néophytes que nous sommes, de quoi souffrait ou de quoi était porteuse votre enfant.
Donc c'était un syndrome polymalformatif, donc l'association de plusieurs anomalies qui ont été donc référencées, et du coup... la maladie porte le nom de cet acronyme, donc charge. Ça reprend les noms des différentes anomalies. Donc c'est le mot anglais. Donc c'est le colobome, donc une atteinte au niveau des yeux qui fait qu'elle voyait très mal. H c'est le cœur, heart. Enfin voilà, je vais pas tout vous dire, mais bon, donc il y avait. En fait, elle n'avait pas tout non plus. C'est une combinaison justement aléatoire. Enfin, donc elle avait quand même trois de ces anomalies, 3 sur 6, donc du coup ça permettait au médecin de dire qu'elle était porteuse du syndrome. Et après, voilà, il y a eu une analyse, un prélèvement donc au cordon ombilical à la naissance, et qui a permis de voir qu'en effet elle était porteuse du gène incriminé.
Comment on prend un verdict comme ça, en fait? Est-ce qu'il y a une forme de soulagement parce qu'on sait enfin ce qu'elle a, ce qu'a son enfant, ou au contraire c'est l'impression que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête?
En fait, c'est très ambivalent. Enfin, en premier coup, non, il y a le déni, il y a le refus, enfin, accepter, voilà. Il y a une maladie, il y a un handicap. Au début, on ne réalisait pas trop, puis non, on ne voyait rien. Franchement, on voit une petite fille adorable.
Mais c'est la question que j'allais vous poser, c'est que, hormis le fait qu'elle vous voyait probablement mal, c'était une petite fille, comme vous dites, adorable, enfin, qui ressemblait à à n'importe quel autre bébé.
Oui, oui,
rien
vraiment,
ne se voyait de prime abord.
Oui, oui. Puis les premières semaines, un bébé, ça dort tout le temps. C'est, voilà. Donc, elle dormait. On ne pouvait pas soupçonner même plein de choses. Moi, je n'imaginais même pas que ça pouvait exister. Par exemple, le trouble de la déglutition, je ne connaissais pas. Et après, au fil des mois, voilà, on a vu qu'en effet, elle pleurait jamais. Ça, je trouvais ça super. Mais en fait, ce n'est pas normal, un enfant qui ne pleure pas. Ça doit pleurer, et un peu hypotonique, petit à petit, on voit qu'elle ne soulevait pas sa tête. Voilà. Donc au fil des mois, on a vu qu'en effet, il y a des petites choses qui ne fonctionnaient pas vraiment. Et les médecins, voilà, qui avaient plus l'œil, eux ont vu, je pense, beaucoup plus tôt, mais nous, ils essayaient de nous dire d'ailleurs à demi-mot qu'ils faisaient plein d'examens, nous ne comprenions pas pourquoi elle les faisait. Donc c'était vraiment au compte-gouttes, et du coup, à chaque fois qu'on voyait un médecin, c'était pour nous annoncer un truc qui n'allait pas, et... Après, on appréhendait les rendez-vous, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, et nous, on ne comprenait pas.
Alors, avant qu'on parle des complications et puis du décès de votre petite fille, elle a vécu donc 11 mois. À lire votre livre, donc on sent ce parcours du combattant que ça a été. Parlez-nous des moments heureux que vous avez vécu avec votre petite fille. Il y avait probablement des moments quand même où elle était à la maison avec ses frères et sœurs. Vous arriviez quand même un petit peu à vous reposer, à vous faire aider, etc. Vous décrivez dans votre livre aussi de l'armada amicale qu'il y a eu derrière un certain nombre de personnes que vous dites être les anges gardiens. Mais parlez-nous des moments heureux. Il vous reste comme ça des souvenirs de journées où c'était une petite fille comme les autres, et puis la vie familiale était quand même, j'allais dire, à peu près normale. Ce qu'on lit au sujet de votre livre, c'est qu'est-ce que la normalité. Et parlez-nous des moments heureux.
Les moments heureux, finalement, c'était surtout à l'hôpital, où j'ai vraiment vécu des moments hyper forts avec elle, où le temps s'arrête. Parce que déjà, voilà, lorsqu'elle est en réanimation ou autre, ou hospitalisée, à chaque fois, c'est compliqué. Il fallait attendre que les puéricultrices la sortent de son berceau, avec tous les tuyaux, les trucs, là, pour surveiller sa respiration. Donc déjà, voilà, il fallait attendre de la voir dans les bras et autres. Donc du coup, une fois qu'elle était dans mes bras... Voilà, je savourais et je la lâchais plus. Et c'est vraiment des moments de...
Vous étiez toute seule avec elle en plus, du coup, là, non ?
Oui, ou avec mon mari, ou après on se relayait, ou une amie venait. Mais c'est vrai, la contempler, lui parler, tout prenait une dimension. Là, on est vraiment dans le présent, et c'est ça la clé du bonheur. On pouvait faire sa toilette, la masser, la parfumer. J'avais emmené une machine à CD là, pour mettre des disques de musique de Mozart et autres. Donc c'était un petit concert dans sa chambre. Il y avait vraiment eu des moments de grande joie.
La relation se crée entre elles. Enfin, vous sentiez qu'elle était là aussi avec vous.
Oui, et ce qui était aussi très beau, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivait, elle ouvrait les yeux. Comme si elle nous sentait, elle nous voyait un peu quand même, j'espère. Elle nous attendait, et ça, c'était vraiment très beau. À chaque fois qu'on arrivait, elle se réveillait.
Alors, il y a eu après donc des complications, des choses difficiles. J'en citerai juste une. Vous avez un chapitre qui s'appelle le Nissen et la gastrostomie. Donc là, on lui a installé un appareil, c'est ça, pour qu'elle arrive à manger, parce qu'elle n'arrivait pas à déglutir, c'est ça ?
Oui, non, en fait, on a dû ça. C'était très violent pour moi. C'était plus dur, ça. Que du coup, comme elle faisait des fausses roues, donc qui abîmaient les poumons, qui ont d'ailleurs beaucoup abîmé les poumons, on a dû la nourrir par gastrostomie, c'est-à-dire mettre un petit bouton dans l'estomac pour que la nourriture passe plus par la bouche. Donc ça, en fait, c'est assez connu, enfin même dans les maisons de retraite pour les personnes âgées ou des maladies neurodégénératives. Moi, je connaissais pas du tout. Donc ça, c'est vrai que c'était très dur. Bah, pour une maman, en effet, pour nourrir notre enfant. Donc là, je voulais plus la nourrir. Et puis la maman qui devient infirmière malgré elle, enfin de brancher. Mettre les poches, de lait, etc. Ça, c'était la torture pour moi, quoi.
Le 28 juillet 2012, donc, vous recevez un coup de téléphone et il est 5h du matin. Vous dites la chose suivante, je me lève. Tout de suite, pour moi, c'est une évidence, c'est l'hôpital, Marie-Lise décline. Nous pouvons venir la voir d'après les médecins, nous avons le temps, environ 2 heures. Sauf si c'est trop difficile pour vous, est-ce que vous pouvez nous parler de son départ ?
Bah, son départ, en fait, j'appréhendais vachement. Déjà, les médecins ont dit la délicatesse de ne jamais nous parler de mort. Ils n'ont jamais utilisé ce terme. Juste l'avant-veille de son décès, ils nous ont parlé de ce qu'ils ont dû l'extuber, du coup, parce qu'après l'opération...
Elle avait été opérée du cœur, c'est ça, hein?
Oui. Voilà, en fait, elle ne se remettait pas. Il y avait une grosse fièvre, une infection. Je crois que ça s'est réouvert. Enfin, du coup, l'opération... Enfin, il aurait fallu la repérer, mais en l'état, ce n'était pas possible, quoi. Donc du coup, à un moment, ils nous ont parlé de soins palliatifs. Donc là, ce mot était très violent. Là, j'ai compris en même temps sans comprendre. On ne peut pas... Il y a un refus, un déni. Enfin, c'est très bizarre. À la fois, je me sentais prête et pas prête. Et on lui avait dit du coup... c'est mon mari qui lui a dit la veille au soir, qui était resté avec elle tard, qui m'a dit après, qu'il lui avait dit, si tu n'arrives plus à lutter, si tu peux partir... on est prêt, on t'a donné ta chance, on t'a aimé, on a tout fait. Mais donc du coup, il y avait cette petite préparation. Et quand on est arrivé, on s'est vraiment laissé porter. J'étais comme un automate. Ça s'est fait très facilement, très naturellement. On l'a pris dans nos bras, on a appelé un prêtre là pour venir pour lui faire le sacrement de l'onction l'extrême onction. On l'a pris dans nos bras, on l'a bercé, on lui a chanté sa petite berceuse, on lui a confié plein d'intentions. Et elle s'est endormie, et c'était très doux, une grande paix, on se sentait au ciel. Quoi. Franchement, en fait, j'ai adoré ce moment, ça peut paraître dingue, mais c'était très très beau. Et du coup, c'est vrai, j'ai plus peur du tout de la mort, pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Quoi. La vie part, elle a rendu son souffle, c'était tout doux, et... Voilà.
Marie-Lise, notre enfant soleil, paru aux éditions Le Centurion. On fait une deuxième pause musicale, Vanessa, et puis on vous retrouve. Je vais juste reprendre vos mots, parce que c'est étonnant la manière dont vous parlez de son départ. Tu viens de rendre ton dernier souffle et d'arrêter de respirer. Ça y est, tu es belle et bien partie. Je ne sais plus si nous pleurons, j'ai plutôt souvenir d'une très grande paix, d'une très grande douceur. Tout s'est passé si facilement, si naturellement, sans révolte. Moi qui ai appréhendé tant cet instant, la grâce a été donnée.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Marie-Lys, notre enfant soleil, c'est le titre du livre de Vanessa Cordier qu'on parcourt ce matin, paru aux éditions Le Centurion. Pour ceux qui nous prendront en cours de route, pour rappel, c'est aussi le titre de cette émission. Marie-Lys, qui est née le 28 juin 2011 et qui est repartie le 28 juillet 2012. On en parlait avant cette deuxième pause musicale. J'aimerais que vous nous parliez un peu de l'après-décès. Vous en parlez dans votre livre, Vanessa Cordier. Moi j'avoue que c'est le moment qui m'a le plus ému et là j'ai touché du doigt ce qu'il y a d'incompréhensible peut-être pour un homme de ce qu'est en fait de ce qu'est être mère quand vous allez à l'hôpital alors qu'elle est décédée et vous continuez à l'embrasser, à la caresser. J'ai envie de dire que la maman que vous êtes nous parle de cet amour un peu fou. D'ailleurs par moments vous dites vous-même que je me dis, mais je suis complètement folle, comment ça se fait que je me comporte comme ça? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces moments après son départ?
Oui, donc en effet, c'est vrai que c'est violent aussi, elle était dans mes bras, donc là, elle avait rendu son souffle. Et puis au bout je ne sais plus combien de temps, déjà il a fallu retourner aussi à la maison pour l'annoncer à vos frères et sœurs. Donc ils sont du coup venus avec nous aussi, c'était des moments très beaux aussi. Ils ont pu aussi porter leur petite sœur, lui amener des joujoux, des petits cadeaux, lui faire plein de bisous. Et je pense que c'est un beau cadeau aussi que leur a fait Marie-Lys, qu'ils aient, même si c'était tôt pour eux, et c'est toujours très violent un décès, mais d'être confronté comme ça à la mort d'une façon douce et paisible. Et, de toute façon, ils savent maintenant qu'on partira tous, que ça fait partie de la vie et que c'est naturel. Et ils ont un aplomb, les enfants. Après, on est partis en vacances en Espagne. Et je rigolais parce qu'ils disaient à tout le monde, nous, on a une petite sœur qui est morte, là. Donc, je voyais la tête effrayée, horrifiée des gens. Et eux, avec une simplicité, et puis avec la foi, elle est au ciel, elle est avec nous, tout près. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'était vraiment très beau. Donc, je pense que c'est ça qu'ils garderont.
C'est-à-dire que ça leur paraissait en fait assez naturel, si je puis dire ou...
Ben voilà, oui, son petit cœur était malade, on n'a pas bien pu réussir à le réparer, et donc elle est partie plus tôt que d'autres.
Racontez-nous l'enterrement aussi. Vous dites que ça a été un très très beau moment, ton anciennement ou mariage céleste, et puis vous aviez choisi entre autres de lâcher des ballons au moment de l'inhumation sur les conseils d'une amie.
Oui, voilà, donc pendant toute cette épreuve, on avait donc les relais du Seigneur, ce que j'appelle, les gens qui étaient là au bon moment, qui nous apportaient ce dont on avait besoin, donc consolation, apport matériel, logistique ou autre, ou parole. Et donc là, providentiellement aussi, une jeune femme venait d'arriver sur Toulouse, avait perdu un petit bébé, elle qui avait une maladie génétique aussi, qui était décédée à l'accouchement. Et qui m'avait donné cette idée, j'ai trouvé ça vraiment très beau, au moment de l'inhumation au cimetière, voilà, de lâcher des ballons auxquels on avait accroché des petits mots, donc de revoir ou un petit message pour Marie-Lys. Et donc au moment de l'inhumation, on les a tous lancés au ciel et du coup c'était magnifique. Enfin, c'est le souvenir que je garde. Pour moi, c'était vraiment. Alors que j'appréhendais aussi beaucoup ce moment de la tombe mise en terre. Et non, c'était ce ciel plein de ballons, plein de couleurs. Et du coup, on avait nos yeux levés au ciel et pas vers la terre. Et voilà, c'est là maintenant qu'on se dirige et on sait qu'elle est là, là-haut, à la fois tout près, tout loin. C'est mystérieux. Et cette espérance du ciel de la retrouver et avec tous ceux aussi qui nous ont quittés.
Alors parlez-nous un peu de ces réalités du ciel ou de la communion des saints, parce qu'on sent bien à lire votre ouvrage que donc vous aviez la foi avec votre mari, vous ne faites pas mystère aussi de la manière dont ça s'est venu quand même vous creuser et parfois même vous torturer ou remettre en cause certaines choses. Vous êtes rentré naturellement dans cette espérance en la vie éternelle et dans cette autre manière pour votre petite fille d'être... d'être présente. Vous disiez aussi, en préparant l'émission, vous me disiez que déjà vous recevez des lettres et c'est ce qui touche dans votre livre. Vous y êtes rentrée simplement, comme ça, dans cette espérance du ciel, après son départ?
Oui, c'est vrai que ça a été assez... J'ai aussi une chose qui m'interpelle encore beaucoup. Je ne suis pas restée longtemps sur la colère. J'ai toujours été dans l'abandon, l'accueil. Seigneur, que ta volonté soit faite, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'on a demandé qu'elle n'ait pas de maladie grave, qu'elle guérisse. Bon, il ne m'a pas du tout exaucée. Mais en fait, il exauçait plus, parce qu'il m'a donné cette paix, cette joie profonde, que j'ai vécu des moments très très forts. Et c'est vrai, j'ai gardé cette espérance du ciel, pour moi c'est évident. Je me suis aussi un peu interrogée, enfin, j'ai creusé aussi tout ce qui est NDE.
Near Death Experience, donc voilà. Expérience de mort imminente, voilà, des gens qui font une expérience post-mortem.
Voilà, donc là aussi des témoignages très très beaux.
Post-mortem cérébral. Hein.
Oui, donc des gens qui décèdent quelque temps et qui parlent tous de cette paix, de cette lumière, de cet amour, de leur propose même s'ils veulent rester ou redescendre. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aussi aidé et apaisé. Et voilà, et par cette espérance, cette foi, donc j'ai vu que Dieu, bon, ma foi était ébranlée, mais du coup renforcée. J'ai vu qu'il répondait aux prières par les textes qu'il nous a donnés, par ses relais du Seigneur, par cette force surnaturelle. J'ai vu qu'il agissait. Donc en fait, c'était le mieux pour Marie-Lise. C'est vrai qu'elle était quand même très handicapée, c'était très lourd. Donc, je lui dis, elle est mieux au ciel, même si on n'a rien fait pour, hein, on n'a pas choisi, c'est ainsi.
Et elle non plus d'ailleurs, c'est parce qu'elle s'est battue. Hein.
Ouais. Et je lui dis qu'elle a une vie belle, parce que elle a été vraiment très très aimée. Elle a pas eu le temps de pécher du coup, donc je suis sûre qu'elle est direct au paradis. Et c'est une grande joie, cette communion des saints. Du coup, quand je vais à la messe, je la sens encore plus proche. Donc, je peux la retrouver à la messe, aux enterrements.
Excusez-moi, ça veut dire quoi, en fait, que vous la sentez encore plus proche?
Je sais qu'à la messe, il y a aussi tous les... Déjà, dans l'hostie, il y a Jésus ressuscité, déjà. Et donc, je me dis, il y a une part du ciel dans l'hostie. Donc, pour moi, il y a une part de ma petite fille dans l'hostie. Enfin, c'est très fort quand je communie. Pareil aux enterrements, vous allez me trouver folle, mais j'adore aller aux enterrements. Pour moi, voilà, c'est cette union avec le ciel, avec toute cette famille de ceux qui nous ont rejoints. Et c'est vrai, c'est une joie, on prie pour ces personnes qui sont parties, qui nous attendent, nous précèdent, qui sont soulagées de leurs souffrances terrestres, la vie sur Terre n'est pas toujours facile. Et c'est vraiment cette grande joie, cette espérance qui m'habite vraiment. Et aussi dans les moments de prière, je sais qu'elle est là, je peux lui parler. J'ai eu beaucoup de mal au début, parce que pour moi c'était un tout petit bébé, qu'est-ce que je peux lui dire? Et j'en avais parlé avec un prêtre qui m'avait dit non, mais elle est un petit bébé, mais elle est déjà pleinement achevée aussi, mystérieusement, dans le ciel. Et voilà, donc je lui confie aussi des intentions et je sais qu'elle agit. Je vois tous les fruits qu'elle a donnés. Et j'ai aussi une amie qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui l'a prié, qui est tombée enceinte après. Donc, c'était très beau.
Parlez-nous un petit peu du deuil, Vanessa Cordier. Vous donnez quelques conseils en partageant simplement ce que vous avez vécu donc après son départ, parce que malgré tout, si vous avez une folle espérance, vous êtes quand même bien une femme de cette terre et le deuil a été long et la douleur difficile à vous lire. Vous donnez entre autres ce conseil. Je comprends alors que lorsque l'on rencontre quelqu'un qui vient de perdre un être cher, le plus beau cadeau que l'on puisse lui faire est de le faire parler du défunt, de lui poser des questions simples sur sa personnalité, sur ce qu'il aimait. C'est ce qu'on cherche en fait quand quelqu'un vient de partir comme ça.
Oui, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup... C'était un peu dur parce que je voyais des gens... surtout les premiers jours, les premières semaines, on est en permanence, et c'est universel, on pense tout le temps à l'être qu'on a perdu. C'est dans la tête continuellement, et on rencontre des gens et ils veulent nous faire parler de toute chose. Alors je pense que c'est d'une bonne intention de se dire on va le faire changer les idées, la distraire. Alors que non, moi ça me plaisait, mais je suis avec ma petite fille, là je viens de la perdre, j'ai besoin qu'on m'en parle, j'ai besoin d'en parler, même encore aujourd'hui, vous avez vu, au bout de 8 ans, c'est une grande joie de parler de ce qu'on a aimé, qu'on n'oublie pas. On a peur de l'oublier aussi. Ça, j'en avais parlé aussi à une amie qui a perdu un enfant et qui m'avait dit « Mais non, tu l'oublieras jamais, je vois. De jour en jour, je ne l'oublie pas. » Et donc voilà, donc par rapport aux personnes qui... En fait, c'est des personnes qui sont mal à l'aise, mais où eux n'osent pas, je peux comprendre. Hein. Mais en fait, ça nous fait beaucoup de bien. On a besoin de la parole libère. Même écrire, moi, ça a été cathartique aussi de continuer à la faire vivre, quoi. Voilà, parce qu'elle est toujours vivante différemment.
On tourne pas la page, en fait. Hein. C'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. Hein. Et les, comment dire, ceux qui sont partis restent présents. Et donc, voilà, le conseil que vous nous donnez, c'est de ne pas faire comme si ils avaient disparu. Alors, il y aurait bien des choses à dire encore, mais l'émission va hélas toucher à sa fin. Je voudrais rebondir sur une phrase, peut-être pour finir, que vous avez lancée à un prêtre de manière quand même extrêmement culottée ou prophétique, vous nous direz. Je ne retrouve pas le passage qui avait parlé d'une bienheureuse épreuve. Redites-nous quels étaient ces mots exacts. Et puis, rétrospectivement, est-ce que vous oseriez faire vôtre c'est l'expression qu'il avait utilisée.
Oui, donc en effet, c'était un prêtre, on lui avait confié voilà, que c'était pendant la grossesse voilà, qu'on attendait cet enfant lourdement malade. Et il m'a dit « Oh, bienheureuse épreuve, ça va être une bénédiction. » Je l'ai regardé, mais fou, là, pourquoi il me dit ça? C'est pas besoin de ça. Donc j'étais très en colère. J'ai dit, mais comment il peut dire ça? Mais il nie ma souffrance, c'est pas possible. Bon, donc j'en ai voulu longtemps. Et aujourd'hui, bon, avec le recul, je comprends. En effet, c'était une bienheureuse épreuve qui m'a transformée. Il y a un avant, un après, qui a changé mon cœur, qui a fortifié ma foi, qui a porté du fruit. Mais voilà, mais je le dirai en aucun cas à quelqu'un comme ça, du premier coup. C'est quelque chose qui se vit sur le long terme. Il y a des étapes, il y a un chemin plus ou moins long selon les personnes, selon son histoire. Mais bon, je pense que c'est l'étape ultime du deuil et du coup la guérison, de voir que la souffrance n'a pas le dernier mot, que c'est surmontable. Et ce qui me reste aussi, c'est que ce qui dépasse la souffrance, justement, c'est l'amour qui est son maître et qui permet, voilà, l'amour est victorieux de la souffrance.
Eh ben, merci beaucoup Vanessa Cordier, merci d'avoir écrit ce livre, d'avoir été courageuse et de nous avoir parlé de la vie de cette petite fille. On voit des petits pieds sur la couverture, mais j'imagine que c'est pas les siens quand même.
Non, malheureusement. Voilà.
Vanessa Cordier, donc auteure de Marie-Lys, Notre enfant soleil, un très beau livre à lire et on imagine surtout pour les parents qui ont perdu un enfant, peut-être cela peut-il les aider. Vous m'avez dit en préparant l'émission, peut-être finir en vous excusant. Je ne sais pas si c'est encore opportun. On imagine qu'on a toujours peur d'être indélicat en pareille circonstance.
Oui, c'est vrai, je sais que c'est un sujet très douloureux, très sensible. Chacun réagit de façon unique, en fonction de son histoire, de sa sensibilité. Donc moi, c'est vrai que c'est mon histoire avec ma petite fille. Mon regard, donc voilà, je voudrais demander pardon si j'ai pu blesser certains auditeurs ou bousculer. Voilà, c'est du fond du cœur, c'était pas le but. Et
Marie-Lys, Notre enfant soleil, aux éditions Le Centurion. Merci beaucoup Vanessa Cordier.
Merci à vous.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.